Les cours du Collège de France, Histoire intellectuelle de la Chine, Anne Cheng.
Bonjour et bienvenue à tous. Et merci à vous qui avez bravé le premier assaut de l'hiver pour venir jusqu'ici. À votre place, moi, je serais restée sous la couette. Bon, sauf que au Collège de France, par n'importe quel temps, on est censé assurer les cours, on ne fait pas grève, etc. Donc voilà, me voilà. Alors, la semaine dernière, nous avons repris nos travaux en rappelant dans quelles circonstances la fameuse qualification de la Chine par Montesquieu comme un État despotique dont le principe est la crainte. Donc cette qualification a refait surface tout récemment dans les milieux intellectuels et académiques chinois. Alors ces circonstances sont à considérer sur fond de montée en puissance de la Chine depuis le début de notre 21e siècle, qui lui a conféré suffisamment d'assurance et d'aplomb pour entreprendre de contester les fondements de la puissance occidentale, à commencer par les valeurs de la démocratie libérale. Et donc ça lui a permis de mettre en avant et en contrepoint les valeurs du socialisme aux caractéristiques chinoises, autrement dit, de formuler un exceptionnalisme chinois qui serait enraciné dans, je cite la fameuse formule consacrée, 5000 ans de civilisation continue, que nous avons examiné il y a quelque temps, et un exceptionnalisme qui serait également justifié par le fameux siècle des humiliations. Donc dans un tel contexte de rapport de force revanchard, il paraît utile et salutaire de se replonger dans la réalité historique pour examiner de quelle manière le lexique de la pensée politique occidentale, j'entends par là européenne et américaine, ce lexique s'est introduit en Chine par l'intermédiaire du Japon à partir de la fin du XIXe siècle. Alors, nous avons vu la dernière fois que le nom de Montesquieu est connu des intellectuels japonais de l'ère Meiji dès les années 1860 et qu'il est alors associé au principe de la distinction des trois pouvoirs, législatif, exécutif et judiciaire. Donc ça, c'est vraiment une très grande nouveauté, hein, puisque en fait le pouvoir est jusque-là conçu comme étant essentiellement un. Donc le fait de distinguer trois formes de pouvoir, c'est vraiment une idée neuve. Mais ce principe de distinction des trois pouvoirs est perçu comme illustré à l'époque uniquement par les États-Unis. Alors, entre parenthèses, on imagine à quel point ces mêmes intellectuels seraient consternés de voir aujourd'hui le pouvoir judiciaire américain de moins en moins indépendant, hein, sous l'action du premier mandat de Donald Trump, situation qui n'a guère de chance de s'améliorer avec son second mandat. Hein. Alors, dans leur écrasante majorité, les auteurs japonais qui évoquent Montesquieu sont des partisans des droits du peuple. Et c'est en citant Montesquieu que l'un de ces auteurs définit le despotisme, donc traduit en particulier en japonais par le binôme sensei, donc définit le despotisme comme la concentration des trois pouvoirs. Autrement dit, il y a là en fait une sorte de défaut, hein, dans la mesure où justement on vient de distinguer trois pouvoirs, et là, en fait, avec le despotisme, on revient à l'un, à l'unité du pouvoir. Or, aux yeux des réformateurs de Meiji, nous avons vu par exemple le personnage de Kato Hiroyuki, ou le personnage encore plus connu de Fukuzawa Yukichi. Donc, aux yeux de ces réformateurs, la Chine apparaît le plus souvent comme le repoussoir par excellence, c'est-à-dire le symbole même du despotisme oriental et passéiste que le Japon récuse avec la dernière énergie pour se rattacher à la civilisation, hein, Bunmei en chinois Wenming, et aux lumières de la modernité telles qu'elles sont définies en Occident. Alors, vous avez ici une image extrêmement frappante de la défaite des armées chinoises, c'est-à-dire manchoues. Vous avez sur la gauche de la diapositive donc ces dignitaires manchoues qui plient le genou, qui même se prosternent devant les vainqueurs japonais lors de la première guerre sino-japonaise qui se termine en 1895. Alors, vous remarquerez donc déjà le contraste entre les uniformes. Donc, les Japonais ont adopté un uniforme de type occidental, alors que donc les dignitaires manchous sont encore donc dans leur tunique traditionnelle et la coiffe manchou. Et donc vous avez ici justement une des images les plus frappantes du siècle des humiliations qui a commencé bien sûr bien avant, dans les années 1860 avec les guerres de l'opium, mais qui passe également par la montée en puissance à la fin du 19e siècle du Japon, le Japon qui se finalement rallie aux puissances occidentales. Alors, néanmoins, les idées des penseurs politiques européens et de notre Montesquieu national en particulier passent malgré tout du japonais en chinois, notamment grâce à Liang Qichao, que nous avons vu passer la dernière fois, qui est le disciple principal du grand réformateur Kang Youwei, qui en 1898 a tenté de réformer le système impérial, et cette tentative s'est soldée par un fiasco qui a eu pour conséquence que Liang Qichao a dû se réfugier au Japon dès le lendemain de ce fiasco. Et donc Liang Qichao opère ce transfert culturel et linguistique du japonais au chinois dans les deux périodiques qu'il a fondés au Japon, dans le but de s'adresser au lectorat chinois. Vous avez donc d'abord le Qingyibao, et ensuite remplacé par le Ximin Congbao. Ximin Congbao qui veut dire donc le journal du nouveau peuple. Alors, dans ce Ximin Congbao de 1902, Liang Qichao consacre une série d'articles intitulé, vous avez le titre en bas de la diapositive, donc Fa Li Xue Da Jia, Meng De Si Jiu De Xue Shuo, c'est-à-dire donc la doctrine de Meng De Si Jiu, c'est la translittération chinoise de Montesquieu, donc éminent théoricien des lois. Alors, nous avons vu à la fin du dernier cours que c'est en fait une traduction à peine remaniée de la partie consacrée à la philosophie sociale de Montesquieu dans l'histoire de la philosophie d'Alfred Fouillet. Alfred Fouillet qui a vécu de 1838 à 1912, qui a enseigné la philosophie à l'École normale supérieure et qui a publié donc cette histoire de la philosophie en 1875. Et ce qui est tout à fait remarquable, c'est que cet ouvrage en français a été traduit en japonais 11 ans plus tard, 1886, par Nakae Chomin, donc ce grand intellectuel japonais dont nous avons parlé la dernière fois, donc intitulé en japonais Rigaku no Enkakushi. C'est en fait la première histoire de la philosophie publiée au Japon. Alors ça me paraissait intéressant d'insister un petit peu sur ce passage du Japon à la Chine par le détour par la France. Donc là, vous voyez comment circulent les idées et que cette circulation des idées gagne évidemment beaucoup à l'ouverture, à la diversité et au pluralisme. Alors, petite parenthèse anecdotique, histoire de ne pas parler que de messieurs, que ce soit des Japonais, des Chinois ou des Français. Vous serez peut-être intéressé de savoir que Alfred Fouillet avait pour épouse une Madame Augustine Thuiry, qui en 1877 a publié sous le pseudonyme de G. Bruno, qui en fait est mis pour Giordano Bruno, c'est une référence à Giordano Bruno. Elle a publié Le Tour de la France par deux enfants. Ça dit peut-être quelque chose à certains d'entre vous. Alors, c'est paru donc aux éditions Belin en 1877, et c'est un manuel qui sert à l'origine pour l'apprentissage de la lecture du cours moyen des écoles de la Troisième République française. Et comme c'est un livre de lecture courante, il est vendu dans toutes les écoles, qu'elles soient publiques ou religieuses, ainsi qu'aux collectivités locales, associations diverses. Et son succès est tel qu'il atteint un tirage de plus de 7 millions d'exemplaires à la veille de la Première Guerre, en 1914. Et il sera utilisé jusque dans les années 1950. Malgré, comme vous le voyez sur la droite de la diapositive, une conception très colonialiste du genre humain. Vous avez ici une illustration qui paraît dans le chapitre consacré aux quatre races d'hommes. Alors, de gauche à droite, vous avez la race blanche, la race rouge, la race jaune et la race noire. Et inutile évidemment de préciser que la race blanche est supérieure à toutes les autres. Bon. Alors, maintenant, pour revenir à nos moutons jaunes. Donc, dans leurs efforts pour traduire les concepts occidentaux, les intellectuels et hommes politiques japonais ont donc développé une terminologie utilisant donc les kanji, c'est-à-dire littéralement les mots chinois, mais en les combinant de manière inédite pour créer de véritables néologismes qui permettent un transfert de connaissances et qui facilitent bien évidemment grandement la tâche des intellectuels chinois. Alors, en particulier, nous avons vu que Liang Qichao reprend la traduction en japonaise de Ga Noriyuki, qui date de 1876, qui a été publiée sous le titre Banpo Seiri, en prononciation chinoise, donc Wanfa Tingli. Alors, donc, Ga Noriyuki traduit le mot anglais despotism, il le traduit par sensei, donc cette expression que vous avez en rouge, donc en prononciation chinoise, zhuanzhi. Alors, ce binôme est en fait emprunté aux Chinois anciens. Vous trouvez ce binôme dans les sources chinoises anciennes, dans lesquelles il est utilisé non pas comme un substantif, mais comme une construction verbe-objet. Hein, c'est-à-dire, c'est le verbe « zhuan » avec pour objet « zhi », hein, qui veut dire, enfin, qui fait référence à des ministres qui usurpent ou s'arrogent le pouvoir. Donc, voyez comment, en fait, les Japonais, justement, reprennent parfois des expressions ou des binômes qui existent dans les sources chinoises, mais ils leur donnent un sens légèrement différent. Alors, le point important est que ce biais de traduction, par sensei ou zhuanzhi, détache la notion de despotisme de celle de monarchie. Si nous revenons, par exemple, à la traduction des termes par le grand réformateur Fukuzawa Yukichi, donc il nous parle des différents types de gouvernement, en commençant par rikun, li jun en chinois, qui veut dire donc établir le pouvoir du prince, hein, ou du souverain, qui est censé donc traduire le concept de monarchie. Et pour Fukuzawa Yukichi, hein, à partir du moment où le rikun, c'est-à-dire donc la monarchie, devient dokusai, c'est-à-dire le pouvoir d'un seul qui tranche tout seul, hein, à ce moment-là, ça devient du despotisme. Donc là, vous voyez que chez Fukuzawa, la notion de despotisme est dérivée de la notion de monarchie. Alors que quand vous choisissez de traduire despotisme par sensei ou zhuanzhi, vous détachez complètement donc ces deux notions. Alors maintenant, si nous prenons donc un texte de Liang Qichao, qui est paru en 1899 dans son journal, enfin dans sa revue, le Qing Yi Bao. Vous avez ce texte qui s'intitule donc Ke Guo Xianfa Yi Tong Lun, c'est-à-dire donc des différences entre les constitutions de chaque pays. Alors, je vais le lire en fait, je vais vous le lire en traduction in extenso, parce que c'est un texte qui, à mon sens, témoigne d'un véritable souci de clarification et d'un affinement de la compréhension des termes. C'est-à-dire qu'on a vu comment les Japonais essayent justement avec les moyens du bord traduire toutes ces notions du lexique européen, hein. Et là vous avez Liang Qichao qui arrive par derrière et qui essaye de clarifier un petit peu les choses. Alors il commence par nous dire Xianfa, c'est constitution, hein, dans la langue anglaise. C'est ce que dit donc le premier membre de phrase souligné en rouge. Constitution, ce qui peut signifier l'ensemble des lois fondamentales de l'État. Ainsi, que ce soit dans un régime despotique, alors vous l'avez en rouge, zhuanzhi zhengti, ou dans l'ancienne traduction, un junzhu zhiguo, c'est-à-dire un État dirigé par un monarque, hein, que ce soit dans un régime constitutionnel, li xian zhengti, ou dans la traduction ancienne, un État co-dirigé par le monarque et le peuple, c'est-à-dire junmin gongzhu zhiguo, ou que ce soit un régime républicain, Konghe Zhengti, ou dans l'ancienne traduction un Minzhu Zhiguo, c'est-à-dire un État dirigé par le peuple, dans tous ces cas, il semble possible de parler de régime constitutionnel. Même si on avait l'habitude de distinguer de multiples formes de gouvernement, si l'on prend les divers pays qui existent aujourd'hui, donc nous sommes à la fin du XIXe siècle, on n'y distingue pas plus de deux types. Alors, d'une part, les Minzhuguo, c'est-à-dire les monarchies, et les Gonghekuo, c'est-à-dire les républiques. Et dans les monarchies, on distingue deux sous-catégories, à savoir, d'une part, les Zhuanzhi Junzhu, c'est-à-dire les monarchies autocratiques, et les Lixian Junzhu, c'est-à-dire les monarchies constitutionnelles. Alors, fin donc de cet extrait de Liang Qichao, où on voit donc que... oui, allô ? On voit que Liang Qichao donc essaye véritablement de clarifier un petit peu toutes ces idées qui viennent d'Europe. En bas de la diapositive, vous avez le titre d'un autre article de Liang Qichao paru en 1906 qui s'intitule donc Kremlin Zhuanzhilun, c'est-à-dire sur le despotisme Kremlin, c'est-à-dire éclairé. Et ce qui est intéressant dans cet article, c'est que Liang Qichao précise que c'est ce Kremlin Zhuanzhi, c'est-à-dire ce despotisme éclairé, et non la démocratie, qui serait le régime le plus adapté à la situation de la Chine, étant donné que, et c'est Liang Qichao qui parle, que les Chinois eux-mêmes ne sont pas qualifiés encore pour jouer un rôle décisif dans la politique du pays. Autrement dit, les Chinois ne sont pas encore mûrs pour la démocratie. Et en 1903, Liang Qichao avait fait donc un voyage qu'il avait mené aux États-Unis, d'où il avait tiré la conclusion que nous, les Chinois, je le cite, nous ne pouvons accepter que le despotisme. Et nous ne sommes pas capables de jouir de la liberté. En un mot, le peuple chinois d'aujourd'hui ne peut être gouverné que de manière autocratique. Il n'est pas en capacité de jouir de la liberté. Fin de la citation. Donc, ici, on voit Liang Qichao accréditer totalement le verdict de Montesquieu et le verdict japonais, selon lequel la Chine est le symbole même du despotisme, par opposition, bien sûr, au Japon, qui, lui, marche avec grande assurance dans la voie moderne du constitutionnalisme. Alors, à cet égard, il est intéressant de voir que Liang Qichao n'était pas le seul Chinois de son époque à servir de passeur pour les idées occidentales, et qu'il existait d'autres points de vue que le sien sur le processus de modernisation de la Chine. Alors, j'ai nommé ici Yan Fu, que vous avez sur la droite de la diapositive. Yan Fu, qui a vécu de 1854 à 1921, c'est donc un aîné par rapport à Liang Qichao, qui, lui, je rappelle ses dates, 1873 à 1929. Vous voyez également, c'est pour ça que je vous ai mis les deux photos côte à côte, la différence vestimentaire. Liang Qichao, donc réfugié au Japon, a adopté donc le costume de type occidental que portaient justement les élites japonaises de l'époque, alors que Yan Fu, qui vit à la même époque et qui lui est resté en Chine, donc continue à porter donc le costume traditionnel des lettrés. Alors, Yan Fu, lui, de la même façon que Liang Qichao, s'était forcé d'initier ses compatriotes chinois aux œuvres philosophiques occidentales par le biais de ses traductions et de ses essais. Mais contrairement à Liang Qichao, qui traduisait ou donnait un rendu des œuvres occidentales par des intermédiaires japonais, comme on l'a vu, Yan Fu, lui, traduisait directement de l'anglais et en chinois classique. Donc là, il y a une véritable... On a beau avoir envie de les mettre un peu dans le même paquet, mais en fait, on a ici véritablement deux personnalités très différentes et deux points de vue très différents. Yan Fu considère que la langue des élites chinoises doit rester donc le chinois classique, et il a beaucoup de mal à supporter justement cette prose plus moderne de Liang Qichao, en le traitant véritablement de petit jeune qui parle une langue vraiment insupportable aux oreilles d'un lettré. Hein. Bon, alors Yan Fu, comme vous le voyez, contrairement à Liang Qichao, est véritablement un traducteur professionnel. Je vous donne une idée un peu de tout ce qu'il a traduit. Alors, c'est même pas exhaustif d'ailleurs cette liste. Alors, vous avez des grands classiques du 19e siècle européen comme le Evolution and Ethics de Thomas Henry Huxley, qu'il a traduit donc en 1898. Vous avez ici donc la couverture de la traduction de Yan Fu sur la droite de la diapositive, et vous voyez que même les caractères du titre sont archaïsants. Hein. Donc là, il y a véritablement un parti pris chez Yan Fu de rendre tous ces ouvrages européens finalement assez récents à l'époque dans un chinois ancien. Ensuite, vous avez, excusez du peu, donc Adam Smith, The Wealth of Nations, donc traduit en 1901, Herbert Spencer, qui a joué un rôle absolument crucial au Japon et en Chine à la fin du 19e, The Study of Sociology, John Stuart Mill, On Liberty, donc deux ouvrages traduits en 1903, Edward Jenks, History of Politics, également en 1903, enfin donc Montesquieu, De l'esprit des lois, traduit de 1904 à 1909, nous y reviendrons, John Stuart Mill, de nouveau, System of Logic, de 1905 à 1912, et William Stanley Jevons, Primer of Logic, de 1909. Alors, là, vous voyez que Yan Fu s'est lancé donc dans une entreprise de traduction systématique de tout ce qui lui paraissait important à faire comprendre à ses compatriotes chinois pour qu'ils puissent se lancer dans cette opération de rattrapage à marche forcée, hein, la modernisation occidentale. Alors, pour revenir justement sur notre Montesquieu, donc, vous avez ici la couverture de la traduction de l'esprit des lois que Yan Fu a choisi de traduire par Fa Yi, hein, c'est-à-dire l'intention, hein, des lois. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ça lui a pris quand même pas mal d'années, hein, entre 1904 et 1909, pour traduire donc l'intégralité de ce monument. Hein. Et alors, pourquoi est-ce que notre Yan Fu s'est lancé là-dedans ? C'est parce que il n'était pas satisfait donc des traductions précédentes, notamment justement celles qui étaient passées par le japonais. Hein. Et il s'est fondé sur version anglaise, puisque Yen Fu n'était pas francophone, donc il était formé comme anglophone. Et il a publié sa traduction en 7 épisodes qui ont été repris en un seul volume en 1913 par la Shanghai Shangwu Yishuguan, c'est-à-dire les presses commerciales de Shanghai, qui était donc l'un des plus grands diffuseurs donc de l'époque. Et la raison pour laquelle donc Yen Fu s'est engagé dans cet énorme travail, c'est que au début du XXe siècle, la Chine était confrontée au choix crucial, voire vital, entre d'une part une réforme constitutionnelle et d'autre part carrément une révolution. Et comme ses contemporains, Yen Fu considérait donc l'esprit des lois de Montesquieu comme le classique par excellence du constitutionnalisme moderne qui faisait le plus autorité. Et c'est pour ça que vous aurez remarqué que dans toute la liste que je vous ai montré tout à l'heure, donc Montesquieu, c'est le seul auteur français qui a été choisi pour traduction par Yen Fu. Alors, il faut également souligner que Yen Fu, en tant que diplômé de l'Académie navale, c'est là qu'il a été formé à l'anglais, il a été profondément affecté par les défaites maritimes de la Chine face au Japon. En fait, la montée en puissance du Japon a été beaucoup assise justement sur sa puissance maritime, alors que la Chine n'a jamais été, en fait, jusqu'à une date récente, une puissance maritime, et c'est ce qui explique du coup justement cette défaite de 1895. Et bien que Yen Fu se soit évidemment intéressé de très près aux réformes du Japon de Meiji, il ne préconisait absolument pas d'apprendre du Japon. Ça, c'est une de ses grandes différences avec Liang Qichao. Yen Fu estimait que l'occidentalisation du Japon présentait des défauts tels que, je cite, la recherche d'un succès rapide et de profits instantanés, je cite encore, des défauts comme des fondations instables, et enfin l'adoption de la force militaire. Alors évidemment, Yen Fu porte ce genre de jugement de son point de vue de lettré confucéen bontain, parce que il reproche au Japon de ne pas assurer donc le repos de son peuple, de ne pas cultiver ses fondations pour laisser le peuple se développer naturellement. C'est-à-dire que ce qu'il reproche finalement au Japon de Meiji, c'est d'avoir voulu se moderniser à marche forcée et conquérir le monde par la force. Alors, selon Yen Fu, bien que la réforme du Japon ait été, il faut le reconnaître, très, très efficace, ce recours à la force est selon lui une erreur, parce que donc ces marches forcées n'ont pas permis au peuple japonais de progresser véritablement, et essentiellement en termes moraux. Et par conséquent, donc, je cite, le fait que le Japon ait appris de l'Occident sans se soucier de cultiver les fondements de son pays ne peut être considéré comme une réussite et encore moins comme un exemple pour la Chine. Donc là, vous avez donc le lettré confucéen qui parle et qui dit que pour lui, l'important, c'est quand même justement l'assise morale, le fondement éthique de la population. Et après, on peut évidemment essayer d'avancer du point de vue technologique. Et donc, c'est justement cette guerre sino-japonaise de 1894 à 1895 qui a convaincu justement Yen Fu de se consacrer à cet énorme travail de traduction pour rechercher donc un autre type de vérité dans les sources occidentales. Alors, les débats qui se déchaînent au Japon à la fin des années 1880 se retrouvent, je dirais presque mécaniquement, en Chine, avec une décennie de décalage. On pourrait dire que la Chine, à l'époque, a toujours un métro de retard sur le Japon. Alors, en Chine, bien sûr, ça se présente sous une forme et dans un contexte différent. Donc, ces débats japonais se retrouvent en Chine au début des années 1900. Alors, durant les années qui ont précédé la chute définitive de l'Empire Manchou, donc en 1911, l'influence de la pensée de Montesquieu, telle que l'a présentée Liang Qichao à ses compatriotes chinois, a été bien sûr prépondérante. C'est ce qu'il a fait donc à la fin du 19e et au début du 20e siècle, à travers justement, on l'a vu, les périodiques qu'il a créés au Japon. En reprenant donc les critiques de Montesquieu contre le despotisme chinois, Liang Qichao et à sa suite d'autres intellectuels chinois ont dénoncé l'absence d'un système de loi en Chine et l'arbitraire du pouvoir impérial. Mais alors que certains des compatriotes de Liang Qichao, tel le fameux Sun Yat-sen, donc futur président de la première république chinoise à partir de 1912, certains compatriotes se sont prononcés, eux, en faveur de la république. Alors que Liang Qichao a plutôt marqué ses préférences pour la monarchie constitutionnelle. Il pensait en effet que substituer la République à l'Empire, et ça c'est intéressant, c'était substituer le despotisme d'un groupe d'hommes au despotisme d'un seul homme. Et que seul le pouvoir d'un monarque tempéré et contrôlé par une constitution avait des chances de réussir en Chine. Et dans tous ces débats, la position de Yen Fu représentait une voie très distincte dans l'opinion de la fin des Qing, c'est-à-dire de la dynastie Manchu. Ce gouvernement Manchu et la plupart des réformateurs, comme Liang Qichao, étaient favorables à une monarchie constitutionnelle de type germano-japonais, c'est-à-dire plutôt autoritaire et doté de puissantes prérogatives royales, et alors que les révolutionnaires, au contraire, prônaient un républicanisme démocratique. Et dans cet ensemble, Yen Fu semblait presque seul à promouvoir une position politique modérée, c'est-à-dire celle de la démocratie constitutionnelle, c'est-à-dire ce qu'il appelait le Li Xian Minzhu. Alors, en 1905, donc le Japon, 10 ans après avoir été victorieux sur la Chine Manchoue, remporte une autre victoire retentissante, cette fois sur la Russie tsariste. Alors, retentissante parce que c'est la première fois qu'un pays asiatique, ou en tout cas non européen, l'emporte militairement sur une puissance européenne. Donc là, vous voyez le Japon qui avance véritablement comme une locomotive, comme un bulldozer. Et cette victoire, en fait, a été saluée par l'intelligentsia chinoise comme, je cite, une victoire du constitutionnalisme japonais sur l'autocratie russe. Fin de la citation. Et la victoire a donné un élan puissant au constitutionnalisme, au point de pousser le gouvernement manchou, pourtant extrêmement conservateur, sous la houlette de la fameuse impératrice douairière Cixi, donc a poussé ce gouvernement à proclamer son intention d'établir une constitution, idée qu'il avait pourtant catégoriquement rejetée seulement quelques années auparavant, en provoquant le fiasco du fameux mouvement de réforme de 1898. Donc, en quelques années, le gouvernement manchou donc change de braquet et donc passe justement de la destruction d'une tentative de réforme vers une monarchie constitutionnelle. Il change d'avis donc en quelques années. Alors, ce constitutionnalisme de la fin de la période manchou a bien sûr fait l'objet d'un nombre considérable d'études, mais la plupart d'entre elles affirment que l'introduction du constitutionnalisme par les manchous à la fin du 19e représente une percée dans l'histoire de la Chine, parce que c'est la première fois que le gouvernement tente de modifier en profondeur le système gouvernemental. Alors, pour certains membres des élites chinoises, la mise en œuvre du constitutionnalisme allait ébranler les fondements du despotisme chinois et reconfigurer la relation de pouvoir entre la population et le gouvernement. Toutefois, on a également avancé que le constitutionnalisme de cette fin des Qing n'était qu'un camouflage permettant à la cour de maintenir son despotisme. Et ces points de vue opposés sur les motifs réels de l'introduction du constitutionnalisme témoignent de la complexité de cet énorme changement politique à l'échelle nationale. Et dans l'opinion publique, qui est reflétée dans la presse de l'époque, la presse, qui est devenue entre-temps un mode d'expression moderne en Chine, en tant qu'outil d'influence sur la vie sociopolitique, dans cette opinion publique, le constitutionnalisme apparaît fréquemment comme une farce nationale. C'est ce que vous voyez dans ces caricatures, comme celle-ci, qui date de 1908, qui est parue dans le Shenbao, connu en anglais sous le titre de Shanghai News. Alors, le Shenbao, le journal de Shen, le Shen est une allusion en fait à l'ancien nom du Huangpu, qui est l'affluent du Yangtze qui passe à Shanghai. Et c'est un journal qui est édité de 1872 jusqu'à 1949. Et alors, vous voyez sur ce dessin donc un personnage qui, vous le remarquerez, porte toujours la natte manchoue et qui semble tenter de brancher, c'est le cas de le dire, le rameau déjà feuillu de la Constitution. Vous avez ces deux caractères ici qui sont pas très lisibles, mais que je retranscris ici, Li Xian, c'est-à-dire donc le rameau de la Constitution, sur le tronc plus ou moins desséché du despotisme, Zhuan Zhi. Et vous avez alors quelque chose d'encore plus frappant, c'est cet autre dessin qui est paru en 1909 dans le journal The National Herald et qui vous décrit, c'est ce qui est écrit ici, donc c'est-à-dire donc la situation, la position de la Chine la place qu'elle occupe dans le monde en 1909. Alors, la place qu'elle occupe dans le monde, vous le voyez sur ce globe, notre planète toute ronde, où vous voyez apparaître donc la Chine, Zhongguo ici, vous voyez ici ce personnage qui est très évidemment vêtu à l'occidental, c'est donc un occidental, qui très négligemment, d'un coup de pied, s'apprête à pousser donc la Chine par-dessus la falaise, hein, et vous avez juste en dessous donc un groupe de personnages qui eux aussi portent la natte manchoue, hein, qui ont essayé de tendre une toile, un petit peu comme une toile de pompier, vous savez, et qui c'est écrit ici donc Qingsu Kai Guo Hui, c'est-à-dire donc nous vous en supplions, hein, réunissez le Parlement au plus vite. Hein. Donc là, vous avez une, comment dire, le régime parlementaire comme véritablement dernier secours, dernier recours pour essayer d'arrêter la chute, hein, de la Chine dans le gouffre. Alors, ce constitutionnalisme perçu comme un double du despotisme a suscité donc une infinitude de débats à la fin de cette période manchoue, notamment sur la manière dont le despotisme et le constitutionnalisme doivent fonctionner l'un par rapport à l'autre. Alors, vous avez d'un côté au sein de la cour les hauts fonctionnaires qui pensent que le constitutionnalisme détruirait le régime manchou et la tradition chinoise par le même coup, et qui, eux, s'opposent obstinément aux fonctionnaires qui soutiennent le constitutionnalisme afin de, eux, de maintenir en réalité le statu quo despotique. Hein. Donc, vous voyez dans quelle situation extrêmement imbriquée nous nous trouvons. Hein. Alors, tout ce rappel historique a visé donc à retracer la façon extrêmement sinueuse dont les termes fondamentaux de la pensée politique européenne se sont introduits en Chine par l'intermédiaire du Japon, hein, ce qui fait que dans le vocabulaire moderne, hein, là vous avez la version en japonais, mais vous avez exactement les mêmes caractères en chinois, vous avez finalement une opposition entre le régime républicain et le régime monarchique, et vous avez également la distinction entre l'expression qui est en bas, hein, donc l'autocratie, hein, qui est traduite en japonais par sensei chinois zhuanzhi, qui se distingue de l'expression en haut, qui se lit donc dokusai en japonais et dutsai en chinois, hein, et qui traduit donc la notion de dictature. Alors, j'en veux pour preuve donc un ouvrage récent de notre collègue français, Jean-Pierre Cabestan, hein, qui a publié chez Gallimard donc cet ouvrage qui s'intitule « Demain la Chine, démocratie ou dictature » en 2018. C'était juste avant la pandémie. Et qui c'est un ouvrage qui a été traduit en chinois, hein, par « Minzhu hai shi duzai », c'est-à-dire donc « démocratie ou dictature ». Et alors, Jean-Pierre Cabestan, le voici. Hein, je rappelle qu'il est sinologue et politologue. C'est l'un de nos meilleurs spécialistes donc de la Chine contemporaine, de Taïwan également et de Hong Kong, où il réside actuellement. C'est véritablement un observateur de première main, justement, des relations de toutes ces entités donc entre elles. Et dans la foulée, il a publié encore plus récemment, en 2021, toujours chez Gallimard, cet autre ouvrage qui s'intitule toujours « Demain la Chine », mais « Guerre ou paix ?», point d'interrogation, hein, où l'on retrouve le fameux piège de Thucydide dont nous parlions il y a 2 ans. Alors, je vous lis, hein, ce que dit Jean-Pierre Cabestan en introduction de cet ouvrage. Il parle de la confrontation croissante et multidimensionnelle entre la Chine et les États-Unis, et il se pose la question peut-elle conduire à la guerre ? Et il dit ceci, je cite, « À l'évidence, la méfiance entre la Chine et les États-Unis s'est attisée, nourrissant les risques de mauvais calculs sur les intentions et les actions de l'adversaire. Mais la première et la deuxième puissance économique mondiale se trouvent-elles pour autant enferrées dans le fameux piège de Thucydide, selon lequel ce sont l'ascension d'Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ et la crainte qu'elle inspira à Sparte qui rendirent la guerre entre les deux cités inévitable. Dès 2012, le célèbre politiste américain Graham Allison commença à se montrer inquiet du risque de voir la Chine et les États-Unis tomber dans ce piège. Donc Graham Allison est l'auteur de cet ouvrage que vous avez sur la gauche de la diapositive intitulé « Destined for War, Can America and China Escape Thucydides Trap ?» c'est-à-dire donc « Destiné à la guerre, est-ce que l'Amérique et la Chine peuvent encore éviter de tomber dans le piège de Thucydide ?» Donc c'est dans ce livre paru en 2017, c'est Jean-Pierre Cabestan qui parle, que Graham Allison développa le plus complètement l'hypothèse que la transition de puissance à laquelle, selon lui, nous assistons a de fortes chances de ne pas rester pacifique. La puissance ascendante qu'est la Chine pourrait bien inspirer à la puissance établie que sont les États-Unis une crainte telle qu'une guerre entre ces deux pays devienne inéluctable, un peu comme entre Athènes et Sparte au 5e siècle avant Jésus-Christ. Il est important de préciser d'entrée de jeu, qu'Allison ne pense pas qu'une guerre sino-américaine soit inévitable. Il estime seulement qu'elle est plus probable qu'on ne le croit souvent. Proposant une vaste comparaison historique, il observe que sur les 16 grandes transitions de puissance au cours des 5 derniers siècles, seulement 4, dont celle entre la Grande-Bretagne et les États-Unis, mais aussi celle entre les États-Unis et l'Union soviétique, se sont produites sans provoquer de guerre entre la puissance établie et la puissance ascendante. Mais l'objectif d'Allison était de lancer un signal d'alarme fort afin justement que les responsables politiques chinois et américains évitent de tomber dans ce piège en faisant plier l'arc de l'histoire. Alors, nous serons assez soulagés d'apprendre que le président Xi Jinping a redit pas plus tard que la semaine dernière, le 16 novembre très exactement, lors de sa rencontre avec le président Biden, dans le cadre du G20 à Lima, au Pérou, il a dit ceci, « Le piège de Thucydide n'est pas un destin historique. La nouvelle guerre froide ne peut être ni livrée ni gagnée, mais l'endiguement de la Chine n'est ni judicieux ni souhaitable et ne réussira pas. » Donc là, nous sommes à la fois soulagés, mais avertis. Je crois que je vais peut-être m'arrêter là avant d'aborder l'autre ouvrage de Jean-Pierre Cabestan. Je vois qu'il me reste quand même 5 minutes. Je vais quand même vous lire ce qui me paraît intéressant justement dans cet ouvrage de 2018 où Jean-Pierre Cabestan en fait se pose la question de savoir combien de temps pourrait encore durer le régime en place actuellement en Chine. Ça, c'est également une question qui peut nous intéresser. Et il écrit ceci, il est clair que la République populaire de Chine n'est pas éternelle. Pas plus, par exemple, que l'Union soviétique, la Corée du Nord, ou le régime autoritaire de loi martiale à Taïwan, qui a sévi de 1949 à 1987. Maintenant, Taïwan est mis en avant comme un exemple de démocratie, mais ça ne l'a pas été de tout temps. À long terme, la République populaire est sans aucun doute vouée a laissé la place à un autre système politique. Le Parti communiste chinois est condamné à disparaître ou à se transformer et à accepter de se disputer le pouvoir avec d'autres forces politiques dans un cadre plus ouvert et, espérons-le, pluraliste. Toutefois, alors ça c'est ce que j'aime beaucoup chez nos collègues de Sciences Po, hein, il y a toujours une très très bonne analyse, il y a toujours un mais quelque part. Alors, toutefois, pour de multiples raisons historiques, idéologiques et structurelles que nous allons développer plus loin, cette transition démocratique risque fortement d'être retardée, chaotique et incomplète. Les forces et les contraintes qui freinent une telle évolution sont nombreuses. Citons brièvement dès maintenant l'immensité et la diversité du territoire et des populations. Ça, c'est une donnée, évidemment, de tout temps. Ensuite, élément important pour nous, la longue tradition bureaucratique chinoise destinée justement à gérer cette taille et cette diversité. La puissance impressionnante de l'institution du Parti communiste, ainsi que de la culture et des pratiques politiques largement importées d'Union soviétique, qu'il a imposées à la société chinoise depuis 1949. Les intérêts politiques et économiques acquis, ou les rentes, de la nomenclatura communiste et de sa famille, l'étroite dépendance des entrepreneurs privés à l'égard du pouvoir politique, ça on l'a vu avec le cas de Alibaba par exemple, la faiblesse des valeurs politiques démocratiques, faiblesse que le Parti communiste et les habitis soviétiques, pluriel de habitus soviétiques, ont non seulement perpétué mais accusé, le caractère très embryonnaire de la société civile, la puissance des institutions répressives, augmentée par justement les technologies dernier cri, l'isolement et la vulnérabilité des forces qui militent en faveur de la démocratie, et enfin le soutien des élites économiques et de larges segments des classes moyennes au régime actuel, à la fois du fait de leur dépendance à l'égard du Parti communiste, mais aussi de la peur de toute instabilité et de tout retour au chaos des années passées. Là, allusion faite aux années maoïstes et en particulier de la révolution culturelle. Pour l'ensemble de ces raisons, mon hypothèse est que le Parti communiste chinois a instauré ce que j'ai ailleurs appelé un nouvel équilibre autoritaire qui devrait lui permettre de maintenir encore longtemps sa dictature sur le pays. Question suivante. Qu'entend-on par longtemps ? Réponse, difficile à dire. Tant les facteurs intérieurs et extérieurs de toute évolution et sortie du régime politique actuel sont nombreux. Disons 20 ans. Mais 30 ans me semble tout aussi crédible. Bon, alors on a le temps. Hein. Les véritables questions sont de savoir à quel type de système politique la République populaire pourrait laisser la place et les formes que cette métamorphose serait susceptible de prendre. Là, je suis plus pessimiste. Pour les raisons que je vais à présent développer, c'est plutôt un régime encore largement autoritaire, élitiste, paternaliste, impérial et sans doute dictatorial qui, le plus probablement, se perpétuera en Chine. Et à plus long terme, la transformation de ce régime risque fort de se révéler chaotique, marquée par de profondes fractures politiques, des tentatives avortées de démocratisation, des reculs conservateurs et aussi des tentations militaristes destinées à préserver, en cas de vide politique, l'unité du pays. Fin de citation. Donc je vous laisse méditer sur l'avenir qui nous est encore laissé à espérer. Et nous reprenons ceci la semaine prochaine. Merci.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.